Bien, merci pour l'accueil, parce que c'est la troisième fois que je viens ici, mais c'est toujours avec plaisir que je viens. Donc, si je reviens après, il faudra qu'on trouve d'autres sujets de discussion, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Effectivement, quand on avait réfléchi à une nouvelle intervention, donc j'avais proposé ce thème, qui est un thème que je traite aussi à l'Université de Bourgogne, donc vers une agriculture sans pesticides, utopie ou réalité. Alors, je ne sais pas si on arrivera à avoir une réponse claire ou pas à la fin de la conférence, mais en principe, c'est la même diapo à la fin. Donc, on verra si on a un petit peu avancé dans notre compréhension de tout ça. Alors, effectivement, avec cette histoire de glyphosate, on est dans un sujet qui est en pleine actualité. Alors, c'est quand même un sujet qui est au cœur de l'actualité quand même depuis déjà très longtemps. Alors, pour les plus anciens, vous vous rappelez peut-être de ce qu'on appelait le Grenelle de l'environnement. Donc là, on revient donc en 2008, où il avait été décidé de mettre au point un plan qu'on appelait le plan Ecophyto 2018. Et ce plan avait pour but, eh bien, justement, de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture, donc en développant toute une série de points. Donc c'était de favoriser, eh bien, de nouvelles méthodes de protection des cultures, etc. Et puis, ben simplement, il y avait une petite phrase qui était, donc ça c'est la phrase réelle tirée du décret, c'est que ce plan visait à réduire donc de 50% la quantité de produits phytosanitaires utilisés en agriculture d'ici 2018, si possible. Le si possible était dans le texte d'origine. Donc ça veut dire qu'a priori, déjà à cette époque-là, bon, on avait peut-être quelques arrière-pensées en se disant, est-ce qu'on va réellement y arriver? Et puis finalement, bien, quand on a commencé à suivre l'évolution, donc ici c'est l'évolution des produits phytosanitaires vendus, donc exprimés en tonnes, en fonction des années. Donc 2008, c'était l'année de référence du plan Ecophyto. Bien, on s'est aperçu que très rapidement, la quantité de produits phytosanitaires utilisés, bien, ne diminuait pas sensiblement. Et donc on a fait un deuxième plan. Donc cette fois-ci, on l'a appelé simplement Ecophyto. Donc on s'est bien gardé de mettre une date dans le nom du plan. Et les objectifs de ce plan sont toujours les mêmes, c'est de réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisés, simplement avec des objectifs un peu moins ambitieux et un peu plus tardifs. Donc l'idée, c'est de réduire de 25% cette quantité de produits phytosanitaires d'ici 2020. Donc 2020, c'est demain. Et puis de 50% d'ici 2025. Donc voilà quels sont les nouveaux objectifs par rapport à cette diminution attendue de produits phytosanitaires, donc de pesticides. Alors, si on veut essayer de répondre à cette question, eh bien, peut-être déjà définir ce qu'est réellement un pesticide. Alors, un pesticide, voilà, si on prend ces deux racines, donc racine latine et racine grecque, c'est finalement, ça peut se définir comme tout composé qui va être capable, eh bien, de détruire. Oups, là, je me suis emballé. Qui va être capable de détruire, eh bien, une espèce nuisible dans les cultures. Alors, parmi les pesticides, eh bien, il y a les familles qu'on connaît classiquement. Donc, ce sont par exemple les herbicides, les insecticides, les fongicides, les parasiticides. Donc, en gros, si on compile ces quatre premières classes de produits de pesticides, on a 95% à peu près des tonnages qui ont été indiqués tout à l'heure. Donc, autrement dit, c'est vraiment on veut réduire de manière significative ces produits phytosanitaires, eh bien, c'est sur ces classes principales ici qu'il va falloir essayer de travailler et de trouver des solutions. Alors, à côté de ça, il y a d'autres classes de composés qui rentrent aussi dans les pesticides. Donc, par exemple, les nématicides. Donc, les nématodes, ce sont en fait des petits vers que l'on retrouve dans les sols. Alors, en eux-mêmes, ces petits vers posent rarement de dégâts. Simplement, en général, ils sont vecteurs de virus. Et donc, ils vont pouvoir contaminer les plantes de proche en proche. Et là, c'est plus le virus qui va poser un problème. Mais comme les virucides en général ont une très faible efficacité, bien plutôt que de lutter contre le virus, il est souvent plus facile de lutter contre le nématode qui transmet ce virus. On retrouve également ici, dans cette catégorie, bien par exemple, les produits contre les rongeurs qui peuvent aussi occasionner de grandes pertes de culture. Alors, dans toute cette famille de composés, eh bien, on va trouver des pesticides dits de synthèse. Alors j'avais préparé le diaporama avant, mais l'exemple le plus actuel et le plus classique, c'est bien évidemment donc le glyphosate, donc qui va rentrer dans la famille des herbicides. Et à côté de ces pesticides de synthèse, pour lesquels on se pose la question de savoir s'il faut continuer à les homologuer, combien de temps, est-ce qu'ils sont réellement nocifs, pas nocifs, etc. Eh bien, on va trouver aussi des pesticides naturels, donc qui sont issus pour la plupart de plantes. Alors un qui a pas mal défrayé la chronique il y a quelques années, c'est la rotenone. Alors la rotenone, c'est en fait un insecticide. Alors cet insecticide, il avait un avantage, c'est que c'était le seul insecticide qui était homologué en agriculture biologique. Tout simplement parce que ce n'est pas un produit issu de la synthèse chimique. Sauf qu'on s'est aperçu que cette rotenone, en fait, c'est un puissant neurotoxique. Donc neurotoxique pour les insectes que l'on vise, mais également un neurotoxique pour l'ensemble de la faune que l'on peut retrouver dans une parcelle cultivée. Et dans l'ensemble de cette faune, on peut rajouter sans aucun problème l'homme. Il est extrêmement toxique chez l'homme. Donc ce composé-là est interdit depuis 2009. Donc ça, pour une première notion importante, c'est-à-dire que pesticide, ça ne veut pas forcément dire produit de synthèse. Non. Donc ça voudra dire, on le verra par après, que par exemple, en agriculture biologique, on continue à utiliser des pesticides, qu'on le veuille ou non. Tout simplement, on n'utilisera pas des pesticides de synthèse, mais des pesticides naturels. Donc, la question, si on veut répondre à notre question de départ, est-ce qu'on va un jour ou l'autre arriver à avoir une agriculture qui ne consomme pas de produits phytosanitaires ? La question qui se pose, c'est comment on peut être capable de gérer les agents nuisibles pour la culture, sachant que ça peut être à la fois des bactéries, des champignons, des levures, des insectes, et tout ce que l'on veut. Donc pour ça, j'ai pris un exemple que je connais bien parce que c'est l'exemple que j'enseigne, c'est un bon exemple local également, c'est l'exemple de la filière viticole. Et vous allez voir que cet exemple il va finalement être très parlant. Parce que par exemple, si l'on prend la surface agricole utile en France, on est à peu près à 50% du territoire, donc ce qui fait à peu près 29 millions d'hectares cultivables. Et la surface viticole en France, c'est un petit peu moins de 3% de cette surface agricole utile en France. Et pour autant, si l'on revient sur ces tonnages de produits phytosanitaires utilisés, c'est 20% du tonnage utilisé en France. Donc faites le rapport, une tonne par hectare en viticulture, c'est une des cultures qui va consommer le plus de produits phytosanitaires. Et quand on veut illustrer un petit peu cette surconsommation de produits phytosanitaires en viticulture, on trouve souvent ce genre d'images, qui maintenant sont heureusement pour celles-ci en principe interdites, qui est par exemple l'épandage de ces produits phytosanitaires par hélicoptère ou par avion. Donc il n'y a pas très longtemps que ce n'est plus autorisé. Et puis dans une exploitation viticole qui continue à utiliser les produits phytosanitaires, vous devez en théorie trouver un local dédié au stockage de ces produits phytosanitaires. Et voilà, par exemple, à quoi ça peut ressembler pour une exploitation viticole. Donc vous n'avez plus qu'à faire votre marché pour savoir quels produits vous allez utiliser. Donc voilà, vigne, consommation très forte de produits phytosanitaires, ça fait finalement un bon exemple pour essayer de voir comment on peut essayer de diminuer ces produits phytosanitaires et au final, est-ce qu'on peut réellement s'en passer ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, j'ai choisi de finalement voir quelles sont les solutions dont on dispose aujourd'hui. Est-ce qu'on dispose de solutions qui permettent d'y arriver ou de s'en approcher ou pas du tout ? Donc, j'ai placé ça sur un axe ici. Et puis, quand on fait un petit peu le bilan, on peut identifier en gros 4 types d'exploitations. Ces exploitations, on peut les classer de la gauche vers la droite. Des exploitations qui utilisent les stratégies les plus polluantes aux exploitations qui utilisent les stratégies les moins polluantes. Donc l'idée, si on arrive à répondre à votre question, c'est de se déplacer bien le plus possible ici vers la droite. Alors ce classement plus polluant, moins polluant, on peut aussi faire exactement le même classement en les classant de finalement la stratégie qui est la plus facile à mettre en place pour l'agriculteur ou le viticulteur vers la stratégie qui au contraire va être la plus technique, la plus pointue. Ce classement, on peut aussi le faire depuis la stratégie qui va être la moins risquée vers la stratégie qui est au contraire la plus risquée. Risquée étant finalement bien, le risque pour l'agriculteur ou le viticulteur de perdre toute ou partie de sa récolte bien, suite à des attaques par différents agents pathogènes, par des insectes, par tout ce que l'on veut. Et enfin, ce qui va commencer à permettre de répondre à notre question, c'est qu'on ferait le même classement si on classait ces différentes stratégies de la stratégie la plus répandue à la stratégie la moins répandue. Donc, à partir de là, les différentes stratégies que l'on va voir, bien, vous prenez finalement les caractéristiques qui vous intéressent et en principe, ça devrait coller. Donc, on va essayer de voir ces différentes caractéristiques et ce qui se cache derrière. Alors, la plus polluante, la plus facile, celle qui sera la moins risquée, qui est, alors on peut dire éventuellement malheureusement, la plus répandue, c'est ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Alors, conventionnelle, il y a finalement un peu un synonyme, pour, ou du moins une explication, c'est ce qu'on appelle le tout chimique. Alors, dans cette agriculture conventionnelle, bien, on va avoir affaire à une lutte dite de prévention. L'idée, ce n'est pas finalement de traiter la plante pour la soigner d'une maladie qui pourrait se développer. L'idée, c'est de traiter la plante avant que la maladie s'installe ou que la maladie se mette en place ou que le ravageur apparaisse. Et puisque c'est une lutte de prévention, eh bien, ça va être une lutte systématique. C'est-à-dire que finalement, on ne va pas se soucier ici de savoir si potentiellement, ben, les conditions, par exemple, de température, de pluviométrie ou tout ce que l'on veut, sont favorables ou défavorables à l'installation de l'agent pathogène, on va traiter et on va traiter à cadence régulière en tenant compte de ce qu'on appelle la durée de rémanence du produit, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le produit va être actif lorsqu'il est appliqué sur la plante. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas risqué. Il suffit tout simplement de lire l'étiquette du produit. On va vous dire, eh bien, par exemple, avec tel produit, il faut traiter tous les 10 jours. Donc tous les 10 jours, l'agriculteur ou viticulteur va passer et donc va traiter ses plantes. Et finalement, pour ce genre de stratégie, eh bien, c'est relativement facile. Il n'y a pas ou finalement assez peu de restrictions. Alors les restrictions qu'on peut principalement citer, c'est par exemple des restrictions qui vont être liées à ce qu'on appelle la loi sur l'eau. C'est-à-dire qu'en fonction des catégories de produits phytosanitaires que vous allez utiliser, eh bien, vous aurez le droit de traiter jusqu'à 5 mètres, par exemple, d'un cours d'eau ou d'un point de puisage d'eau, de 50 mètres, de 100 mètres, ça va dépendre des produits. Donc il peut y avoir quelques restrictions par rapport à ça. Et puis, il peut y avoir aussi des restrictions, par exemple, par rapport à la vitesse du vent. Normalement, eh bien, un viticulteur ou un agriculteur ne peut pas traiter si le vent excède 3 sur l'échelle de Beaufort. Donc 3 sur l'échelle de Beaufort, ça correspond à un vent, en principe, de 19 km/h. Donc, c'est-à-dire les feuilles qui commencent à vibrer dans les arbres, à peu près. Donc finalement, ça fait assez peu de restrictions pour appliquer eh bien, ces stratégies dites conventionnelles. Et dans ce cas-là, eh bien, les traitements vont se faire à l'aide de pulvérisateurs. Alors là, les étudiants pourraient vous en parler beaucoup mieux que moi, certainement, puisqu'ils ont déjà dû voir ça. Alors, au niveau des pulvérisateurs, eh bien, on va trouver, si par exemple on s'intéresse à la filière viticole, eh bien, toute une batterie de pulvérisateurs avec différents modes d'action. Alors, depuis des pulvérisateurs qui sont un peu des scénarios catastrophes, comme celui que vous avez ici. C'est-à-dire qu'avec ce genre de pulvérisateur ici, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle beaucoup de dérives. C'est-à-dire que vous allez avoir une part importante de la bouillie qui sert à traiter votre culture qui finalement, eh bien, ne va pas atteindre sa cible et va partir eh bien, soit directement sur le sol, soit va être prise en charge par les vents, etc., qui vont se disséminer un petit peu partout. Alors ça, ben, c'est bien évidemment des stratégies qu'on peut relier à ces stratégies extrêmement polluantes. Alors, à côté de ces pulvérisateurs qui ne sont vraiment pas des modèles, on a quand même des pulvérisateurs qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, comme ce genre de pulvérisateur qu'on a ici. Et donc, par exemple, dans ce genre de pulvérisateur, ils sont dits à panneaux récupérateurs. Alors, les panneaux récupérateurs, c'est quoi ? Eh bien, c'est en fait qu'ici, donc vous voyez, vous avez des rangs de vignes qui vont être traités. Donc, le rang de vigne va passer entre les deux descentes qui sont ici. Et sur chacune de ces descentes, vous allez avoir ici des buses de pulvérisation. Et ces buses, eh bien, vont en fait pulvériser le feuillage qui va passer entre les deux descentes qui sont ici. Et de chaque côté, donc c'est les systèmes qui sont en vert ici, eh bien, vous avez des panneaux qui vont récupérer les gouttelettes qui ont été projetées par les buses en face, mais qui n'auront pas été interceptées par le feuillage. Donc tout ça va ruisseler le long de la paroi. Ça arrive au fond du panneau récupérateur et puis la bouillie qui est récupérée eh bien, est réinjectée dans la cuve du pulvérisateur. Et donc avec ce genre de pulvérisateur ici, eh bien, on arrive à faire des économies. Alors peut-être que l'étudiant peut nous dire un peu l'efficacité de ce genre de pulvé par rapport à un pulvérisateur classique. Vous avez déjà entendu parler de ces pulvérisateurs-là ? Ouais. Donc est-ce que c'est efficace en termes de récupération ou de réduction des doses ? Vous avez une idée un peu de...
Sur les doses, mais au niveau des dérives, effectivement, apparemment, il y a quand même dans les 40% de... en moins, quoi. Mais par contre, le UV, il y a un coût d'achat important.
Alors, c'est clair que ces pulvérisateurs-là sont beaucoup plus chers que ces pulvérisateurs. Alors, 40%, c'est peut-être un chiffre un peu optimiste. Dans ce que l'on voit dans les expérimentations qui sont menées, on est plutôt entre 20 et 30% en général. Mais si on se rappelle les objectifs du plan Ecophyto dont on a parlé tout à l'heure, de 50%, ben voilà, là, il y a quand même déjà moyen, simplement en s'équipant de pulvérisateurs et en les réglant bien, parce que ça, c'est pareil, on s'est aperçu finalement assez tardivement que la plupart des pulvérisateurs étaient très mal réglés, et donc conduisaient à une surconsommation de produits phytosanitaires pour ne pas avoir une bonne protection. Donc, en utilisant ce genre de composés-là, de pulvérisateurs-là, bien réglés, on arrive à faire quand même des économies relativement substantielles. Et pour régler des pulvérisateurs, eh bien, on peut faire des choses très simples, hein, donc ce qu'on appelle ici des papiers hydrosensibles. Donc, en fait, ce sont des petits papiers jaunes, comme ceci, que vous allez venir placer sur, par exemple, le feuillage. Hein, donc, vous venez le scotcher ou l'agrafer sur des feuilles. Et chaque fois que votre papier va recevoir une gouttelette d'eau ou de produits phytosanitaires, eh bien, vous allez avoir une petite tache violette qui va se mettre en place. Et en fonction eh bien, de ce recouvrement violet, donc, quand vous avez comme ça un papier qui est clairement jaune, ça veut dire que là, vous avez une très mauvaise protection parce que vous avez très peu d'impact sur les feuilles. Au contraire, quand vous avez un papier qui est totalement violet, ben là, ça veut dire que le produit va carrément ruisseler sur la feuille. Donc là, il y en a des quantités beaucoup trop importantes qui sont utilisées. Et donc l'idée, ben, c'est d'arriver à avoir une pulvérisation qui soit la plus homogène possible, ben, parce que ça permet de réduire les produits phytosanitaires utilisés et ça permet d'avoir bien une protection sur l'ensemble de la plante. Donc voilà, ça c'est la stratégie bien finalement classique que l'on connaît. Simplement, bien cette stratégie-là, quand on regarde, par exemple ici, vous avez, alors quand vous allez sur les sites de l'ADEME, dans toutes les régions, vous avez ce genre de carte. Ce genre de carte va en fait donner l'état de contamination, alors des points de puisage d'eau, alors avec les différents prélèvements qui sont effectués. Alors, c'est soit des eaux de ruissellement, donc type des rivières, ça peut être des prélèvements dans des mares ou dans des nappes phréatiques. Et ici, vous voyez, plus on va vers le rouge, à partant du vert, eh bien, plus le pourcentage de points de prélèvement contaminés est important. Donc, ça veut dire que tout ce qui est rouge ici eh bien, va traduire une très forte contamination des eaux souterraines. Alors, Chalon doit être quelque part... Chalon-Chalon, on doit être quelque part à Mâcon. Chalon doit être quelque part. Non, là, ici. D'accord. Donc, vous avez Beaune qui est ici, vous avez Dijon qui est là. Alors, je ne vous fais pas de dessin, mais là, clairement, vous avez par exemple la côte viticole. Hein? Donc, comparez la situation que vous avez par exemple sur la côte viticole avec la situation que vous pouvez avoir au niveau du Morvan. Voilà, hein, je crois que là, la carte démontre clairement l'impact au niveau des pollutions eh bien, de ces prélèvements d'eau. Donc voilà, donc cette stratégie-là, eh bien, c'est bien évidemment la stratégie qu'on va chercher à remplacer pour diminuer, pour essayer de réduire au maximum tous ces aspects-là. Alors après, si on décale un petit peu le curseur vers la droite, donc vers peut-être des solutions plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses de la santé de l'homme, eh bien, on va arriver dans le domaine dit de l'agriculture raisonnée. Alors, l'agriculture raisonnée, c'est une agriculture qui va toujours utiliser des produits phytosanitaires, des pesticides de synthèse. Mais l'idée, c'est d'essayer de raisonner l'application de ces produits phytosanitaires et finalement, eh bien, de ne traiter que s'il y a besoin de traiter. Donc là, on ne va plus être sur une lutte de prévention. Ça va être sur une lutte qui va simplement bien permettre de gérer bien au plus près le développement potentiel de maladies. Alors, forcément, comme on ne fait plus une lutte systématique à intervalles réguliers, etc., bien, ça va être un petit peu plus technique, parce qu'il va falloir être capable bien d'anticiper des conditions qui vont permettre, par exemple, le développement d'une maladie ou d'une autre. Il va y avoir un petit risque supplémentaire pour l'agriculteur parce que s'il ne maîtrise pas complètement les aspects techniques de telle ou telle maladie, il est possible éventuellement qu'il loupe un traitement ou qu'il traite un ou deux jours trop tard et donc qu'il perde une certaine partie de sa récolte. Donc voilà, il y a quand même un risque un petit peu plus important. Et ce que l'on va trouver dans cette agriculture raisonnée, l'idée c'est je ne traite que s'il y a besoin de traiter. Alors ça, c'est facile à dire après, il aurait fallu traiter vendredi, il aurait fallu traiter dimanche, mais si vous êtes le mercredi de la semaine d'après, c'est trop tard. Donc l'idée, c'est d'anticiper finalement le développement possible des maladies. Et donc pour ça, on va avoir ce qu'on appelle la modélisation de ces maladies qui va intervenir. Donc l'idée, c'est pour une maladie donnée, donc par exemple le mildiou, l'oïdium, ce que vous voulez, ou des parasites, eh bien, si l'on comprend exactement comment ces maladies ou comment ces parasites se développent, eh bien, si l'on est capable de modéliser leur développement, simplement en faisant par exemple des suivis météo, en déterminant les températures qui va s'effectuer à des périodes bien précises du développement du végétal, en tenant compte de la pluviométrie, etc., ces modèles sont capables de vous dire, tant qu'on est dans des conditions de pluviométrie et de température actuelle, il n'y a aucun risque de développement, par exemple, du mildiou. Donc s'il n'y a aucun risque, il n'y a aucune raison de traiter. Par contre, lorsqu'il y aura des changements dans les conditions climatiques, et que là, le modèle prévoit une potentielle contamination de la culture, eh bien, dans ce cas-là, on va vous conseiller de traiter. Donc, les agriculteurs et viticulteurs sont abonnés, en principe, à ce qu'on appelle le bulletin de santé végétale. Donc, c'est quelque chose qui est publié par les chambres d'agriculture et qui, en fait, va leur donner les conseils pour traiter ou non. Alors après, ils respectent les conseils qui sont donnés, mais voilà, ça va permettre d'anticiper l'arrivée potentielle des maladies. Et si on reste sur notre exemple de vigne ici, donc ce qui est symbolisé ici, c'est finalement le développement de la vigne, donc depuis le développement des premières feuilles, jusqu'ici la mi-véraison. Donc la mi-véraison, c'est lorsque les baies de raisin commencent à accumuler des glucides. Donc en gros, on va du mois d'avril jusqu'au mois d'août ici. Et en bas, ce que vous avez, c'est par exemple les traitements qui seraient effectués en agriculture conventionnelle. Donc M, contre le mildiou, et puis O contre l'oïdium. Donc un viticulteur qui serait en conventionnel, eh bien, traiterait donc à chacun de ces points clés ici. Et un viticulteur qui serait engagé en agriculture raisonnée, eh bien, les seuls traitements obligatoires, ce sont ceux qui sont indiqués en rouge. Donc vous voyez, par rapport au mildiou, on aura deux traitements obligatoires en raisonnée contre 7 en conventionnel. 2 pour l'oïdium contre 5 pour l'oïdium en conventionnel. Et les autres traitements, donc qui sont indiqués ici en grisé, eh bien finalement, ils vont dépendre de ce que va prédire le modèle. Et donc si par exemple en toute cette phase-là, on a par exemple un début de printemps qui est extrêmement sec, il va falloir une certaine pluviométrie pour que le mildiou puisse se développer sur vigne, eh bien si on est sur une période sèche, il n'y a absolument aucune raison de traiter, parce qu'il n'y a aucun risque de développement de la maladie. Donc dans ce cas-là, eh bien, le viticulteur va gagner 3 traitements. Donc 3 traitements, ça veut dire 3 sources de pollution éliminées. Mais ça veut dire aussi pour le viticulteur, eh bien, 3 traitements non effectués. Donc non effectués, ça veut dire du produit non consommé, du temps de travail non effectué, des économies de gasoil et tout ce que vous voulez. Donc potentiellement, eh bien, économiquement, ça peut être une stratégie qui peut être également intéressante pour le viticulteur. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'adapter la dose utilisée eh bien, aux conditions de l'année en cours. On peut avoir aussi d'autres façons de modéliser. Par exemple, ça va être de se dire, bien, si je traite ma vigne lorsqu'elle a 5 feuilles étalées. Donc 5 feuilles étalées, vous allez avoir un rameau qui va faire 20 cm de haut. Et si je traite ici au mois de juillet lorsque j'ai une pleine végétation, donc que j'ai un rameau qui va faire 1m20, 1m30, bien, tout bêtement on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin de la même dose pour traiter 20 cm de rameau que pour traiter 1m20. Donc l'idée par exemple, eh bien, vous avez des logiciels très simples qui vous permettent eh bien, d'adapter la dose au volume du feuillage que vous avez. Donc pour ça il suffit tout simplement de passer dans sa parcelle, mesurer la hauteur, la largeur du feuillage. Vous calculez le volume de feuillage que vous avez à l'hectare et vous adaptez votre dose avec ça. Et donc là encore, eh bien, il y a moyen de faire des économies tout à fait substantielles. C'est relativement simple. Donc on reste encore dans des techniques peu risquées, peu techniques. Il suffit finalement un petit peu de bon sens pour arriver à mettre en place cette agriculture raisonnée. Donc, on commence avec cette agriculture raisonnée, eh bien finalement réduire les quantités de pesticides utilisés tout en gardant l'avantage de l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse, parce que leur gros avantage, quoi qu'on en dise, c'est qu'ils sont pour la plupart extrêmement efficaces. On peut les critiquer sur leur nocivité pour l'homme, pour l'environnement. Globalement, ce sont quand même des composés qui sont extrêmement efficaces. Donc voilà, ce genre de stratégie-là. Alors, l'agriculture raisonnée souffre d'un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de label officiel qui permet de reconnaître un produit issu de l'agriculture raisonnée ou de la viticulture raisonnée. Alors, on voit ça parfois sur certains produits, mais ça n'engage que l'affirmation du viticulteur ou de l'agriculteur. Vous n'avez pas de contrôle d'une réelle application de ce genre de stratégie. Alors, quand on passe du conventionnel au raisonné, bon, on réduit un petit peu les produits, les pesticides, clairement, on ne les supprime pas. Alors, si on va aller un petit peu plus loin, bien, une stratégie qui sera beaucoup moins polluante que les deux premières, qui sera un petit peu plus technique, un petit peu plus risquée, un petit peu moins répandue également, c'est le domaine de l'agriculture biologique. Alors, l'agriculture biologique, on ne va pas se passer de pesticides, on va le voir, mais on va se passer de pesticides issus de la synthèse chimique. Ça, c'est absolument proscrit. Et vous savez eh bien que ces produits issus de l'agriculture biologique eh bien, sont certifiés par l'un ou l'autre de ces deux logos. Donc vous avez le logo français, donc du label français, et le label européen, sachant que le label français est un peu plus drastique que le label européen. Donc lorsque vous avez un produit qui a le label européen, le label français, il a forcément le label européen. L'inverse n'est pas forcément vrai. Alors par exemple, si l'on revient donc à cette viticulture, alors prescription des produits de synthèse, on va voir qu'il y a quand même des fois quelques petites entorses à la règle. Et là, la viticulture est un bon exemple. Si vous avez souvenir de bouteilles de vin bio consommées il y a quelques années, en général, voilà, on trouvait cette étiquette-là. C'est-à-dire, ce n'était pas des vins de l'agriculture biologique, c'était des vins issus de raisins produits par l'agriculture biologique. Pour une raison simple, c'est que dans la quasi-totalité des vins, on va rajouter des sulfites. Les sulfites, ce sont des molécules qui vont empêcher l'oxydation des vins, donc qui vont permettre leur conservation au cours du temps. Et les sulfites, eh bien, c'est issu de la synthèse chimique. Donc c'était jusqu'à 2012 eh bien, quasiment impossible de produire un vin sans sulfite et donc de produire un vrai vin bio. Alors depuis 2012, eh bien, pour arriver à produire des vins bio, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement assoupli un petit peu, on va dire, la règle de l'agriculture biologique. Et donc on a autorisé l'appellation vin bio à des vins qui contiennent toujours des sulfites. Donc issus de la synthèse chimique. Simplement, on a des teneurs réduites en sulfite qui sont autorisées. De mémoire, c'est de l'ordre en général pour l'agriculture conventionnelle de l'ordre de 200 mg de sulfite par litre. Et dans les vins bio, on doit être à 120 mg. Mais voilà, on est dans un produit qui a le label bio, mais qui contient des produits issus de la synthèse chimique. Alors, l'agriculture biologique... Bien, on va vers une utilisation de moins en moins importante de produits phytosanitaires. Et on s'aperçoit, si on prend cette courbe ici, donc ici c'est le nombre d'exploitations, donc c'est le trait que vous avez en rouge ici, d'exploitations qui sont en agriculture biologique, et puis les zones vertes ici, pour trop quelle couleur c'est un moutarde, je ne sais pas trop comment on les appeler, ce sont les surfaces réellement cultivé en agriculture biologique en France. Et vous voyez que depuis bien maintenant une bonne vingtaine d'années, on a une évolution constante de ces surfaces et de nombre d'exploitations en agriculture biologique. Et on s'aperçoit que dans le courant des années 2000, ici, bien, il y avait des surfaces, un nombre d'exploitations qui stagnait un petit peu. Et ici, bien, vous voyez, ça a repris en 2008. Alors, ce n'est pas forcément un hasard. Hein. 2008, c'est le Grenelle de l'environnement. Et à partir de ce Grenelle de l'environnement, il y a eu un certain nombre d'aides qui ont été proposées aux agriculteurs qui se lançaient dans la conversion vers l'agriculture biologique. Donc, c'est vraisemblablement cet effet-là qui a permis eh bien, de relancer un certain nombre d'exploitations agricoles vers l'agriculture biologique. Alors ça, c'est ce que l'on a pour le panorama de l'agriculture générale. Pour la filière viticole, eh bien, vous voyez, c'est exactement le même schéma. Hein. C'est-à-dire, sur les années 2000, eh bien, des surfaces et des exploitations qui stagnaient un petit peu. Et puis, à partir de 2008, eh bien, un nouveau coup de fouet vers le développement de plus en plus de surfaces cultivées en agriculture biologique. Donc, vous voyez, on est ici à peu près maintenant à 70 000 hectares en agriculture biologique contre à peu près 700 000 hectares de viticulture en France. Donc, on a à peu près 10% du vignoble qui est cultivé en agriculture biologique. Donc, on va bien vers les stratégies qui sont les moins répandues hein, par rapport aux autres stratégies raisonnées et chimiques. Alors, on s'aperçoit qu'à partir des années 2010, il y a eu, pareil, un petit tassement dans le développement et dans le nombre de conversions. Alors simplement, eh bien, il faut se rappeler que ces années 2011, 2012, 2013 ont été des années relativement difficiles pour les viticulteurs au niveau conditions climatiques. Et donc, un certain nombre de viticulteurs se sont un peu ralentis sur leur passage au bio. On a vu également des exploitations qui étaient passées au bio redevenir des exploitations au moins raisonnées, hein, simplement parce que certains viticulteurs n'arrivaient pas à contenir les maladies avec les stratégies utilisables en biologique. Mais voilà, on est plutôt quand même sur une dynamique, on va dire favorable. Alors, dans cette agriculture biologique, finalement, par exemple, la carte des surfaces en agriculture bio, plus on va vers le marron, plus on a des pourcentages de surfaces en bio qui sont importants. Alors, vous voyez très clairement que plus on va vers le sud, plus on va avoir de surfaces importantes cultivées en bio. Alors ça, ce n'est pas un hasard, tout simplement. Quand vous allez vers le sud, vous allez au moins pendant la période agricole vers des régions chaudes avec peu de précipitations. Donc ça veut dire des climats qui sont peu favorables au développement des maladies. Donc c'est beaucoup plus facile de passer en bio dans le sud que par exemple dans le nord de la France, tout simplement. Alors, si on n'utilise pas de produits de synthèse, comment finalement les agriculteurs ou les viticulteurs vont pouvoir maintenir les agents pathogènes? On va utiliser des pesticides, mais cette fois-ci des pesticides naturels, qui sont autorisés en agriculture biologique. Et parmi ces pesticides naturels, on va notamment retrouver le cuivre et le soufre. Alors, à des quantités qui peuvent être relativement importantes, par exemple le soufre que l'on va utiliser pour contenir l'oïdium, on peut facilement aller jusqu'à une centaine de kilos par hectare et par an. Pour le cuivre, là on a des limitations. Et donc, par exemple, en viticulture, les viticulteurs sont limités à 6 kilos de cuivre par hectare et par an. Et ces 6 kilos, c'est finalement le droit qu'ils ont, c'est 30 kilos sur 5 ans. Et après, sur ces 5 années, ils peuvent moduler les doses. Donc par exemple, si c'est une année avec une faible pression et qu'ils se contentent de 4 kg de cuivre, et que l'année d'après, on a une année au contraire à forte pression, l'année suivante, ils peuvent utiliser 8 kg de cuivre. C'est modulable. Ce qu'il faut, c'est pas dépasser ces 30 kg sur une période de 5 ans. Alors ces composés-là, le soufre pose pas trop de problèmes au niveau environnemental. Le cuivre, lui, par contre, va poser de gros problèmes. Notamment parce qu'en fait, le cuivre, dès lors qu'il va arriver au niveau du sol, il va être fixé par les particules du sol et il va être quasiment impossible de le décrocher. Ce qui fait que si vous prenez un sol qui était cultivé pendant des années avec des traitements au cuivre, en général, dans les 15-20 premiers centimètres de sol, vous avez des teneurs en cuivre qui sont extrêmement toxiques. Et par exemple, si vous cherchez, vous avez une vigne qui a été traitée pendant 50 ans avec du cuivre, vous l'arrachez, vous cherchez à replanter une jeune vigne dessus, si vous replantez les racines dans les 20 premiers centimètres de sol, votre vigne ne prendra pas. Tout simplement parce que les doses de cuivre sont telles qu'une jeune vigne ne peut pas s'installer. La vieille vigne, elle avait ses racines en profondeur jusqu'à 1,50 m, 2 m de sol. Donc que les 20 premiers centimètres soient contaminés ou pas, ça ne la dérangeait pas beaucoup. Si vous replantez vos vignes sur ce sol, sur cette terre contaminée, là, ça ne marche pas. Donc en général, ce qui est fait, c'est que là où on va planter, sur le rang, on va décaisser les 20 premiers centimètres de sol, ramener de la terre non contaminée, de sorte que le temps que le système racinaire de la jeune vigne se développe et aille s'enraciner en profondeur dans les zones non contaminées. Donc le cuivre, c'est l'exemple typique d'un pesticide naturel, donc tout à fait autorisé en agriculture biologique, mais qui peut poser des problèmes importants de pollution. Alors, à part le cuivre et le soufre, il y a finalement assez peu de produits naturels qui sont autorisés. Alors ça pose des problèmes, par exemple, notamment contre des principes actifs en matière d'insecticides, par exemple. On a finalement très peu de choses. Donc on a parlé tout à l'heure de la rotenone qui a été interdite. Et pour certaines cultures, et notamment, toujours pareil, sur l'exemple vigne, il y a une maladie pour laquelle, si le viticulteur est dans une région concernée, il doit absolument traiter, c'est impératif, c'est la flavescence dorée. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ceci. Eh bien, pour la flavescence dorée, en agriculture bio, il n'y a qu'un seul produit qui est homologué, qui s'appelle le pyrévert, qui est aussi un neurotoxique. Donc, est-ce qu'il est plus dangereux, moins dangereux que la rotenone? Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas non plus une efficacité de 100%. À part ça, eh bien, les viticulteurs sont totalement démunis. Donc si un jour on a interdit le pyrévert parce qu'on s'est rendu compte qu'il était neurotoxique pour l'homme, eh bien, pour les viticulteurs en bio, il n'y aura pas d'alternative. Alors à côté, eh bien, puisque finalement pour l'instant il n'y a pas grand-chose, eh bien, on voit des nouvelles stratégies se développer. Alors c'est des stratégies dont j'avais parlé sur une conférence précédente. Donc c'est notamment par exemple ce qu'on appelle les PNPP. Donc les PNPP, c'est les préparations naturelles peu préoccupantes. Alors ça c'est le libellé officiel. Alors en fait, c'est quoi les PNPP ? Eh bien c'est juste des différents extraits de plantes que finalement tout un chacun peut préparer chez soi. Donc, l'exemple le plus classique, alors il n'est pas là-dessous, il serait la ligne suivante, c'est par exemple le purin d'ortie hein, que vous pouvez utiliser. Après, vous avez des décoctions de saule qui peuvent être utilisées. Donc voilà, donc, ce sont des composés de ce type-là qui peuvent être appliqués. Seulement, bah, ces produits-là n'ont pas toujours une efficacité extrêmement, extrêmement performante, notamment en général lorsqu'ils sont utilisés seuls. Donc, ce qui marche le mieux, finalement, c'est d'utiliser des pesticides traditionnels, tels que le cuivre, pour lesquels on va simplement réduire un petit peu la dose, et on va l'associer eh bien, à l'une de ces préparations. Et si on est sur une année où, finalement, la pression de maladie n'est pas très importante, eh bien, on arrive à protéger relativement efficacement la culture. Simplement, pour protéger cette culture, eh bien, il va falloir que les traitements soient extrêmement précis, donc avoir une très bonne efficacité de pulvérisation, et placer les traitements eh bien, exactement au bon moment hein, par rapport au développement potentiel de la maladie. Donc en ce sens, eh bien, cette stratégie d'agriculture biologique eh bien, va être plus technique. Il va falloir avoir de bonnes connaissances de la plante, de bonnes connaissances des maladies, pour arriver eh bien, à placer ces traitements le plus judicieusement possible, tout en sachant que le risque zéro ne sera pas atteint par cette stratégie-là. Donc il faut, dans ces stratégies-là, eh bien, éventuellement tolérer une petite part d'incertitude et une petite part de perte de récolte. Alors avec cette agriculture biologique, eh bien, finalement, voilà, on va vers une stratégie moins polluante. Alors, moins polluante, est-ce que c'est réellement le cas? La question se pose, c'est pour ça que je l'ai mis en gros ici, c'est quand on s'intéresse à finalement l'efficacité de cette agriculture biologique, du fait qu'elle est réellement moins polluante ou pas, attention aux sources que l'on utilise, parce qu'on trouve beaucoup de chiffres vraiment contradictoires par rapport à ça. Et par rapport à cette agriculture biologique, il y a deux sujets importants un peu de discorde. La première, c'est les rendements. Est-ce que les rendements sont réellement plus faibles en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle? Alors, il y a, à ma connaissance, une seule étude qui a répertorié, alors qui n'a pas fait de travail d'expérimentation en elle-même. Dans cette étude-là, ils se sont juste contentés de répertorier toutes les études qui avaient été faites, alors quelle que soit la plante, pour lesquelles il y avait des résultats qui étaient exploitables. Exploitable, c'est de dire, mais finalement, je m'intéresse à l'impact ou au rendement de l'agriculture biologique sur le blé, eh bien, ça veut dire que je prends une parcelle, la moitié d'une parcelle, je la traite avec les principes de l'agriculture biologique, et l'autre moitié, je la traite avec, par exemple, les principes de l'agriculture chimique. Et je compare les rendements. Et là, c'est la seule façon d'évaluer eh bien, l'efficacité de l'agriculture biologique sur le rendement. Et donc, quand on prend toutes ces études ici, eh bien, la moyenne, c'est à peu près 80% du rendement obtenu en conventionnel. Alors, pour certaines familles de végétaux, donc par exemple pour les fruits, eh bien, globalement, la synthèse de toutes les études montre qu'il n'y a pas de réelle différence de rendement entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Par exemple, là, pour légumes et céréales, eh bien là, on a des rendements qui sont beaucoup plus faibles. Hein, vous voyez, ça va jusqu'à 70% pour les légumes, 80% pour le blé. Suivant les céréales, c'est pareil, on n'a pas les mêmes impacts. Par exemple, avec le blé, on est plutôt sur des rendements en bio qui sont de 50 à 60% de ce que l'on a en conventionnel. Donc, il faut garder ça à l'esprit que finalement, quand même, globalement, avec l'agriculture biologique, même si on ne peut pas généraliser cette valeur à toutes les cultures, eh bien, on va avoir une diminution des rendements. Et cette diminution des rendements, eh bien, on peut essayer de voir, d'y coupler, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre, qui est finalement une autre pollution qui est liée aux activités agricoles. Et donc, d'autres études se sont amusées à compiler ce genre de données. Et par exemple, ici, par rapport au protoxyde d'azote, qui va être libéré donc, au niveau des sols. Et donc ici, ce protoxyde d'azote, vous voyez, il est exprimé en équivalent CO2 par hectare et par an, donc entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Donc, si on regarde ces chiffres-là, on peut se dire, bah, globalement, bah, on est sur les mêmes valeurs. Sauf qu'ici, eh bien, on exprime ces résultats par hectare. Mais si du coup, on les exprime par tonne de matière végétale produite, eh bien, cette fois-ci, on va avoir une production plus importante de protoxyde d'azote dans les sols cultivés en agriculture biologique que dans les sols cultivés avec l'agriculture conventionnelle. Donc voilà, quand on essaie de voir finalement un petit peu l'impact de ces différentes stratégies, voilà, toujours bien s'assurer d'où viennent les données que l'on a utilisées. Pour les mêmes études, entre les groupes, on va dire, plutôt pro-bio et les groupes plutôt pro-produits phyto, vous aurez une interprétation blanche et une interprétation noire. Donc il faut toujours faire un peu la synthèse de tout ça pour essayer d'avoir eh bien, des interprétations un peu près fiables. Donc voilà ce qu'on peut dire par exemple par rapport à l'agriculture biologique. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'on va arriver à une agriculture sans pesticides? Ben, pour l'instant, la réponse, elle est toujours non. Alors là, on peut arriver à une agriculture sans pesticides de synthèse. Mais on est toujours sur des pesticides. Alors, on peut aller encore un cran plus loin, donc avec des stratégies moins polluantes, plus techniques, plus risquées, beaucoup moins répandues. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la biodynamie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des conférences sur la biodynamie. Non ? Alors, j'ai continué de parler de la viticulture. Donc, je vous ai mis ici 4 bouteilles. Alors, j'espère que vous avez goûté chacun de ces vins. Donc, le premier, peut-être pas. Donc, c'est la Romanée Conti. Donc, le domaine de la Romanée Conti. Donc, comptez entre 3 000 et 10 000 euros pour avoir une bouteille, avec un peu de chance. Ici, c'est un vignoble d'Alsace. C'est le domaine Zindumbrecht. Donc, là, il faut compter 500-600 euros. Pour avoir une bouteille à peu près. Ici, c'est un domaine qui est en Val-de-Loire, donc c'est la coulée de Serran. Alors, c'est par un des papes, on va dire, de la biodynamie en viticulture, qui s'appelle Nicolas Joly. Donc là, bah, pareil, les premiers prix sont à 300-400 euros la bouteille. Et puis, on commence à voir, là, par contre, je n'ai pas le prix, désolé, des champagnes, qui sont aussi des domaines en champagne qui passent en biodynamie. Alors, biodynamie, c'est difficile de finalement décrire les principes. Alors ça, c'est ce que l'on peut trouver sur des sites qui parlent de biodynamie. C'est finalement stimuler les forces vitales de la plante. Alors biodynamie, il y a un label, c'est le label Déméter, que vous pouvez trouver sur toutes sortes de produits. Et puis vous avez un label spécifique pour les domaines viticoles en biodynamie, c'est le label Biodivin. Donc, qui certifie que les produits ont été produits suivant les principes de la biodynamie. Alors, la biodynamie, je regarde juste en termes de timing où on en est, il ne reste plus beaucoup de temps, c'est en fait lié à cet homme, donc Rudolf Steiner, qui est en fait un philosophe croate à la base, et qui a créé un mouvement philosophique qui s'appelle l'anthroposophie. Alors, je ne sais pas non plus si vous avez eu des conférences sur ce mouvement philosophique. Et cette personne est connue pour avoir donné une série de conférences donc en 1924 à des agriculteurs polonais qui se plaignaient bien que finalement leur sol était dépourvu d'activité biologique, donc des sols qui étaient finalement totalement morts. Et donc il a fondé donc un certain nombre de bases pour conseiller ses agriculteurs. Et donc les trois points importants sont les points qui sont là. C'est-à-dire que pour protéger toutes les espèces, alors animales, végétales, qui sont produites sur une exploitation agricole, eh bien, il faut considérer toute la ferme comme un ensemble vivant. Et ensuite, eh bien, il va falloir donc activer les forces vitales, donc on va voir un petit peu ce que ça veut dire, à l'aide de ce qu'on appelle des préparations. Donc en fait, les traitements vont être basés sur ces préparations. Et ces préparations, eh bien, on ne va pas les appliquer n'importe comment, on va tenir compte de rythmes lunaires et de rythmes solaires pour les appliquer. Alors, ces préparations, elles ont des noms de code. Donc, on va les appeler, par exemple, pour la première, la 500 ou la P500. Et la P500, c'est ce qu'on appelle la bouse de corne. Alors, pourquoi elles ont des noms comme ça? C'est en fait, tout simplement, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. On a fait un petit peu d'histoire tout à l'heure, on en fait un petit peu là. Et en fait, les nazis faisaient la chasse à ces stratégies un peu ésotériques. Et donc, pour ne pas clairement divulguer les préparations dont on parlait, on leur a donné des noms de code, donc la 500, 501, 502, etc. Et c'est les noms de code qu'on a continué à utiliser aujourd'hui. Donc l'idée ici, c'est on va prélever des cornes de vache. Alors l'idéal, c'est d'avoir des vaches sur l'exploitation, puisqu'on doit traiter toute l'exploitation comme un seul et même être. Et dans ces cornes, eh bien, on va remplir les cornes avec de la bouse de vache, bon, des vaches de l'exploitation. Et ces cornes, on va les enterrer à l'automne, de façon à ce qu'il y ait bien une fermentation qui se mette en place au cours de l'hiver. Et donc, au printemps, on va déterrer ces cornes. On va récupérer bien l'humus qui s'est formé dans les cornes. Et puis, donc, on va épandre cette préparation. Donc, à raison, vous voyez, à peu près de 120 à 250 grammes par hectare. Donc, c'est-à-dire des quantités qui sont extrêmement faibles par rapport à la surface. Et cette 500, eh bien, on va l'utiliser pour traiter le sol. Et en fait, les bienfaits de cette préparation, eh bien, viseraient à améliorer la structure du sol, à améliorer la vie biologique du sol, et donc permettraient d'avoir un meilleur développement des racines. Et si finalement on a des plantes qui ont plus de vigueur, eh bien on aura des plantes qui vont mieux se porter, qui seront plus à même de se défendre. Donc ça, c'est la première préparation qui est obligatoire. La deuxième préparation qui est obligatoire, c'est la 501, donc la deuxième préparation. Donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la silice de corne. Alors ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va toujours prélever donc, des cornes de vache. Et à l'intérieur, on va placer du quartz qui aura été réduit en poudre, que l'on va moudre avec un mortier et un pilon. On va également les enterrer pendant l'hiver. Et puis cette fois-ci, cette silice que l'on va épandre à une dose de 5 à 10 grammes par hectare, cette fois-ci, eh bien, on va traiter le couvert végétal. Et en fait, le fait de traiter le couvert végétal, donc en général, c'est des traitements qui vont se faire courant du mois de mai, du mois de juin à peu près, eh bien, va faire que l'on a ou que l'on aurait un couvert végétal qui serait beaucoup plus sain, tout simplement parce que finalement, cette silice qui est contenue dans le quartz ici, eh bien, permettrait à la plante de mieux se défendre contre des attaques d'agents pathogènes potentiels. Et donc finalement, eh bien, ce sont ces deux préparations, 500-501, qui vont finalement être les produits phytosanitaires, les pesticides de ces stratégies liées donc, à la biodynamie. Alors après, il y en a toute une série d'autres que l'on va utiliser, mais que l'on va utiliser cette fois-ci en biodynamie, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est d'utiliser du compost. Donc tout ce qui va être matière organique produite par la ferme, alors ça va partir du fumier jusque, par exemple, à tous les déchets végétaux qui seront produits sur l'exploitation. Donc on va en faire du compost, et ce compost, on va l'amender avec un certain nombre de préparations. Donc on va juste en lister quelques-unes, pas toutes les voir. Donc on continue, hein, 501, 502, etc. Donc la 502, ce sont en fait des fleurs d'Achillée millefeuille. Et ces fleurs d'Achillée millefeuille, on va les placer, alors je n'avais pas fumé ni bu quand j'ai préparé le diaporama, dans des vessies de serre. Donc voilà, vous avez ici hein, le remplissage de ces fleurs d'Achillée. On va le placer en terre, donc ici sur une année, donc d'avoir une fermentation durant l'été, durant l'hiver. Et ensuite, eh bien, ce que l'on va récupérer, on va l'ajouter au compost qui va être réalisé sur l'exploitation. Alors après, voilà, on cherche à des explications. Donc voilà, ce que l'on peut trouver, hein, donc ça permettrait d'apporter des forces de la lumière. Alors, il y a des scientifiques parmi vous, donc peut-être qu'ils pourront faire une conférence sur ce que sont les forces de la lumière. Et ça permettrait les plantes à aider, donc à fixer les oligo-éléments qui seront apportés par le compost. Alors vous avez la 503, par exemple. Donc là, c'est des fleurs de camomille qui sont placées dans des intestins de bovins. Voilà, et ici, eh bien, ce serait finalement un rôle sur l'azote, donc la nutrition azotée de la plante. Alors, je ne vais pas toutes vous les passer en revue, parce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps. La 504, bon, bah, là, c'est de l'ortie, ça, vous le connaissez. Donc, l'ortie aurait finalement un rôle sur le métabolisme du fer. Voilà. La 505, c'est des extraits de chêne que l'on va placer cette fois-ci dans des crânes, alors si possible de ruminants. Donc on est toujours dans l'idée de récupérer bien ici des crânes de ruminants sur l'exploitation. Alors voilà, hein, vache, mouton, chèvre, et si vous n'avez pas de vache à disposition, vous pouvez prendre un chat, un chien, a priori ça marche pareil. Voilà. Ce qu'il en est. Alors là, 506, alors je crois qu'on va toutes les faire finalement, même rapidement. C'est des fleurs de pissenlit, donc là placées dans le mésentère. Donc le mésentère, c'est tout l'ensemble des tissus qui sont autour des organes digestifs, donc de ruminants, et qui là, en fait, permettrait d'avoir un effet plus efficace de la préparation 501, donc qui est la silice qui est vaporisée sur le feuillage. Et la dernière, la 507, comme ça on les aura toutes faites, c'est de la valériane. Donc en fait, la valériane en fait juste une décoction dans l'eau. Et là, ça jouera un rôle sur l'alimentation en phosphore de la plante. Donc finalement, eh bien, alors, pour avoir le label Déméter, les deux premières sont obligatoires. Donc la bouse de corne et puis la silice de corne. Et puis celles-ci sont facultatives. Alors suivant les domaines, eh bien, certains domaines les préparent eux-mêmes, d'autres... Vous pouvez acheter ces préparations sur Internet sans aucun souci. Ça ne vaut pas très cher en plus, et comme on sait utiliser à des faibles doses, ce n'est pas une fortune d'utiliser ça. Mais pour autant, si vous reprenez le cahier des charges du label Déméter, bien vous voyez qu'on continue à trouver l'utilisation possible de pesticides tels qu'on les a utilisés en agriculture biologique. Alors simplement, on est sur des doses plus faibles. Donc pour l'instant, par exemple, on est à 3 kg par hectare et par an. Alors il est fort possible qu'en agriculture biologique, l'année prochaine, on passe à 4 kg par hectare et par an. Donc finalement, on va se trouver sur des doses relativement équivalentes. On va retrouver du soufre. Donc même dans ces stratégies qui sont ce qu'on a pour l'instant de plus ultime, on va dire, bien voilà, les produits phytosanitaires, les pesticides sont toujours présents. Alors, ça peut paraître comme ça peut-être un petit peu bizarre, cette présentation-là, mais voilà, vous avez vu quand même que des grands domaines comme la Romanée Conti, la Coulée de Serran, sont capables eh bien, finalement d'assurer une production et de bien monnayer leur production avec ce genre de stratégie-là. Donc finalement, même avec ces labels Déméter, etc., par rapport à notre question, on est toujours non. N'arrive pas à se débarrasser totalement de ces produits phytosanitaires, de ces pesticides. Donc, qu'est-ce qu'il y a en guise de conclusion, de nouvelles pistes ? Bien, il y a peut-être des nouvelles pistes. L'idée, c'est est-ce qu'on n'est pas capable de créer des variétés qui seraient naturellement résistantes à toutes les maladies qui affectent une plante ? Et si on reste sur l'aspect viticulture, eh bien, au niveau de l'INRA, il y a tout un programme qui a été lancé, qui s'appelle le programme RESDUR. Alors RESDUR, c'est pour résistance durable. L'idée, c'est de créer des variétés de raisins qui soient résistantes aux maladies, aux principales maladies, comme par exemple l'oïdium ou le mildiou, et qui en plus permettent de faire un vin de qualité derrière. Donc, Pour ça, eh bien, il y a tous des programmes extrêmement longs qui sont mis en place. Et juste ici pour vous montrer que finalement, entre le moment où l'on commence la stratégie et le moment où on a réellement des variétés qui sont utilisables en agriculture, eh bien, on est sur des temps, sur des délais de 15 à 20 ans. Donc ça veut dire que si on a une bonne idée aujourd'hui pour réduire de manière significative ces produits phytosanitaires, il y a de grandes chances qu'on ne la voit pas apparaître dans les champs avant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Alors est-ce que ça marche ? Bien oui, par exemple, ici, c'est des variétés qui sont en test à Colmar. Donc la variété verte, c'est le témoin, donc les cépages actuels. Et ici, eh bien, très rapidement, vous allez avoir une très forte sensibilité, donc ici au mildiou. Et pour les différentes espèces résistantes, eh bien, vous voyez que dans les mêmes conditions de culture, elles vont au contraire devenir quasiment résistantes. Pas à 100%, mais elles vont être relativement tolérantes à l'attaque de ces agents pathogènes. Donc on peut se dire, ben, potentiellement ici, effectivement, alors tout ça c'est fait sans traitement, bien évidemment. Ces variétés-là sont peut-être potentiellement intéressantes. Sauf que pendant la période de 5 à 10 ans de tests en culture, eh bien, on s'est aperçu que ces raisins, donc effectivement, résistaient très bien au mildiou halloïdium, mais ils étaient sensibles à une maladie qu'on avait finalement complètement oubliée, qui est la maladie du black rot. Donc qui donne cet aspect-là aux raisins. Donc un aspect qui n'est pas très très engageant. Simplement, le pathogène, l'agent pathogène qui était responsable de cette maladie-là, eh bien en fait, il était largement contenu par les traitements au cuivre qui étaient utilisés contre l'agent du mildiou. Et donc finalement, eh bien, si on veut protéger ces cépages résistants contre le mildiou, contre le black rot, eh bien, pour l'instant, on semble se diriger vers 2 ou 3 traitements au cuivre pour arriver à contenir le black rot. Donc, même cette stratégie-là, qui est vraiment la stratégie de demain ou d'après-demain, ben, pas sûr qu'au final, elle nous permette de dire ça sera réel ou au contraire, on est toujours dans le domaine de l'utopie. Donc la réponse, moi je ne l'ai pas. Je pense qu'on est plutôt encore dans ce domaine-là. Et que la réalité, si réalité il y a, ben, il faudra qu'on se revoie dans quelques années pour voir les résultats de tout ça. Voilà ce dont j'avais prévu vous parler.
Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé très clair, très bien documenté. Alors, c'est le moment de poser les questions. Donc, on va quand même privilégier les étudiants, là. Je sais bien que la première question est toujours difficile à poser, mais je vous demande de poser la deuxième. Comme ça, ce sera plus facile. J'ai donné un micro. J'ai même changé la pile, puisqu'elle est, évidemment, elle était à plat. J'ai, dans mon kit de secours, j'ai une pile de secours pour le micro de l'IUT. Voilà. Donc, est-ce que vous avez... déjà, moi, je vous pose une question. Est-ce que ces thématiques, vous les entendez par vos professeurs dans vos enseignements ? Vous pouvez passer le micro, là, qu'on vous entende bien ? Est-ce qu'il y a un volontaire désigné, là ? Vous allumez. Allez, un petit... On veut pas vous manger, hein. Un courageux, oui.
En gros, je suis particulièrement sensibilisé à tout ça. Après, si on veut une réponse, je pense qu'on est encore dans l'utopie.
Oui.
Ça, c'est déjà la première chose.
Ah, le mot, il ne l'a pas prononcé. Hein.
Comment ?
Le mot, il ne l'a pas prononcé.
Non, mais je l'ai écrit,
il est chercheur, donc il ne faut pas qu'il utilise le mot utopie. Sinon, ça casse la baraque. Hein. Voilà.
Oui, donc, voilà.
Voilà.
S'en passer, de ne pas utiliser de pesticides. Quoi.
D'accord. Alors donc, c'est un peu le message général qu'on vous délivre dans votre enseignement, si je comprends bien. Donc de dire, bon, il faut faire des efforts pour réduire les doses, mais il faut quand même encore l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions à caractère général?
Alors, moi, j'aurais peut-être une question à vous poser justement aux étudiants. Alors, ce n'est pas du tout mon domaine, le domaine du machinisme, mais finalement, si vous êtes sensibilisé à ça, est-ce qu'il y a peut-être dans le futur de nouveaux apports du machinisme qui permettraient de réduire vraiment de manière extrêmement importante les pesticides sans s'en passer pour l'instant, bien évidemment? Est-ce qu'il y a des... On peut espérer voir dans quelques années des nouveaux matériaux apparaître, des nouveaux matériels apparaître?
Au niveau de la gestion des mauvaises herbes, oui.
Oui.
Au niveau de la gestion des maladies fongiques, peut réduire les doses, c'est sûr, mais on ne pourra jamais, enfin, entre guillemets, avec le matériel, nous empêcher d'utiliser des pesticides pour gérer les maladies fongiques.
D'accord.
Mais au niveau de la gestion des adventices, oui, le machinisme peut aider.
Donc l'idée, c'est qu'on peut assez facilement remplacer les herbicides, enfin se séparer des herbicides. Ça, c'est le pesticide le plus facile à éliminer, parce qu'effectivement, maintenant, il y a quand même pas mal de matériel qui sont développés justement pour ça, qui en plus sont relativement efficaces. Quoi.
Au niveau des herbicides, on sait techniquement s'en passer. Après, tout est une question de coût. Quoi.
Ça, c'est sûr.
Puis après, si le consommateur il ne veut pas dépenser beaucoup d'argent pour un produit, automatiquement il va falloir utiliser la lutte chimique qui est souvent moins coûteuse. Mais voilà. Donc après, ça dépend aussi du consommateur.
Alors effectivement, ça serait peut-être un des axes supplémentaires, quasiment du moins cher au plus cher. Parce qu'effectivement, la lutte chimique, alors, contre les pathogènes ou contre les herbicides, c'est le coût le moins cher en général. Ouais.
Une question, est-ce qu'on a mesuré dans ces études l'impact qu'ont ces traitements sur la qualité de l'atmosphère au voisinage des cultures ou des vignes, d'une part, et l'impact sanitaire que ça peut avoir sur les gens qui appliquent ces produits et des riverains des cultures en question?
Alors, à ma connaissance, non, pour une raison très simple, c'est que si on voulait vraiment... Ça serait très difficile pour pouvoir comparer deux situations. Il faut être capable d'avoir deux parcelles qui soient dans les mêmes conditions d'exposition, de pan, d'exposition au vent, au soleil, etc. Et techniquement, ça pourrait se faire en ayant des tentes plus ou moins hermétiques pour englober une partie de la parcelle qui serait traitée en conventionnel, l'autre partie qui serait traitée en biologique. Mais ce ne serait pas des études qu'on pourrait faire à l'échelle réelle, parce qu'il faudrait travailler sur des surfaces immenses et vous ne pourriez pas trouver des surfaces immenses équivalentes en chimique et en biologique. Donc je pense que ça serait extrêmement, extrêmement difficile à mener.
On arrive à identifier l'effet des pesticides dans le sol.
Oui.
En faisant des mesures sur, en particulier, les nappes phréatiques,
oui. Hein,
pourquoi ne pas réaliser des mesures dans l'atmosphère qui montreraient des taux, parfois, de produits de synthèse anormalement élevés?
Alors, des taux de produits de synthèse extrêmement élevés, ça c'est déjà démontré, il n'y a pas de problème. Après, c'est finalement, le suivi de l'atmosphère, on va dire, à plus long terme. Où là, ça devient relativement difficile parce que l'atmosphère que vous allez avoir à un endroit donné, elle ne va pas dépendre uniquement des pratiques agricoles de cette parcelle-là. C'est-à-dire qu'elle va être influencée par tout l'environnement. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit suffisamment grand pour qu'une région centrale soit finalement n'interfère pas avec l'atmosphère des autres régions à côté. Et ça, c'est très, très dur de trouver ça. Quoi.
D'autres questions? Oui.
Est-ce qu'il y a des études épidémiologiques qui ont été menées chez les agriculteurs qui utilisent ces produits et qui ont
des maladies,
Alors, au niveau de la... Ouais. Alors moi, je connais surtout au niveau de la viticulture. Il y a eu une enquête il y a peut-être 5-10 ans de l'INSERM à Montpellier, donc en pleine région viticole, et qui avait montré une recrudescence de malformations, notamment génitales, pour les enfants de ces agriculteurs-là, à la fois pour les garçons et pour les filles. Alors, le problème des études épidémiologiques, c'est qu'il faut de tels échantillons de population qu'il est toujours très difficile de finalement être certain d'attribuer un phénomène, donc cette malformation par exemple ici, à l'utilisation de produits phytosanitaires. Quand vous écoutez certains épidémiologistes, on n'arrive toujours pas pour eux à faire un lien direct entre la consommation de tabac et le cancer du poumon, d'un point de vue épidémiologique, même si ça paraît a priori évident à tout le monde. Voilà. Donc il y a des études qui montrent ces cas-là. Après, c'est toujours difficile de dire que c'est forcément dû à l'utilisation de ce produit phytosanitaire-là, de celui-là, etc. Donc c'est pour ça que finalement, le nombre de cas de maladies professionnelles liées à l'utilisation de ces produits phytosanitaires qui sont réellement reconnus, ça reste très peu, quoi. Oui.
Oui, alors moi je voudrais savoir quelle formation reçoivent les agriculteurs pour l'utilisation de ces produits. Ne sont-ils pas tentés de forcer un petit peu sur la dose poussée par le lobbying industriel? Et enfin, est-ce qu'il y a des contrôles sur les quantités qui sont utilisées?
Alors, la formation. Alors là, peut-être que l'étudiant pourrait répondre, peut-être même mieux que moi. Voilà, c'est que maintenant, tout utilisateur et acheteur de produits phytosanitaires doit être titulaire de ce qu'on appelle le certiphyto. Donc le certiphyto, c'est un diplôme qui est délivré. Alors soit on suit une formation dans ce sens-là, soit ça peut être délivré si on a suivi une formation délivrée par le ministère de l'Agriculture. Donc typiquement, un BTS en agronomie, en exploitation agricole, etc., va délivrer ce certiphyto. Donc dans ce certiphyto, il y a quatre formations. C'est le mode d'action de tous ces produits. Il y a les risques potentiels, notamment liés à l'environnement. Il y a les méthodes alternatives à ces produits phytosanitaires. Et il y a un quatrième thème qui m'échappe là pour l'instant. Mais ce qu'on demande aux gens, c'est de suivre la formation. On ne leur demande pas de valider la formation. Donc ça, c'est le premier point. Mais en principe, tout utilisateur de produits phytosanitaires est sensibilisé au moins à ces risques-là et aux alternatives potentielles. Donc après, est-ce que l'agriculteur n'a pas tendance à utiliser un peu plus que voulu? Il y a peu d'études là-dessus qui sont publiées, mais nous, on l'a très bien vu. Vous prenez par exemple du glyphosate que vous avez acheté avec votre Roundup ou votre produit dérivé dans votre jardinerie. Vous divisez la dose par deux, ça marche aussi bien. En général, les doses homologuées sont des doses qui sont largement au-dessus de la dose efficace. Donc pourquoi? Bien, tout simplement, ça permet d'éviter à la firme phytopharmaceutique qui vous a vendu le produit d'avoir un retour, votre produit n'a pas marché. On se passe largement au-dessus de la dose efficace, donc même s'il y a une petite erreur au niveau de la dose prélevée ou du volume de bouillie préparée, de toute façon, ça marchera.
Oui, sauf que les gens ont en plus tendance toujours à forcer en disant voilà, ça marche.
Voilà, j'en mets un petit peu pour le pulvérisateur, un petit peu pour... Merci. Donc voilà, donc il y a de toute façon les doses... Alors, je ne sais pas si j'ai dit une dinguerie ou pas, mais il y a...
Il faut se dire que d'un autre côté, le produit, c'est un coût pour l'agriculteur. Donc, forcer la main, forcer la dose, voilà, il ne va pas le faire par plaisir.
Par plaisir, il doit le faire quand même. Et quels sont les contrôles sur... c'est ma dernière question. Quels sont les contrôles que vous réalisez sur, finalement, ces quantités qui sont utilisées? Est-ce qu'il y a des contrôles déjà?
Alors, les contrôles... Oui, alors, par exemple, pour le label bio, là, c'est des. Donc, c'est pour le label bio, vous avez des organismes, comme par exemple EcoCert, qui est un organisme qui va certifier, effectivement, que par rapport aux doses, aux surfaces utilisées, l'agriculteur n'a pas utilisé plus de ces 6 kg de cuivre par hectare et par an.
Comment se fait le contrôle? Parce que alors, si là, dans la jardinerie du coin, parce qu'on lui en attribue, mettons, 6 kg par an, il va dans la jardinerie du coin, il en rachète à titre privé.
Alors, l'agriculteur est tenu d'avoir un registre des produits phytosanitaires qu'il va utiliser. D'accord ? Et il doit présenter donc, tout ce qui va être facture, une comptabilité qui doit être irréprochable par rapport à ça. Après, on sait bien que les contrôles vitesse n'empêchent pas les gens de rouler à 130 sur une route nationale. Il ne faut pas se faire piquer, c'est tout. Alors, il y a peut-être des réponses plus pertinentes que la mienne.
Il y a des contrôles sur les résidus.
Oui, mais les contrôles sur les résidus vont permettre de retrouver les matières qui ont été utilisées, mais ne vont pas permettre de déterminer forcément la dose. Sachant qu'on retrouve encore, j'ai montré la carte des eaux contaminées, on retrouve encore des résidus de composés qui sont interdits depuis 10 ou 15 ans. Donc est-ce qu'ils sont toujours fixés dans le sol et que finalement le sol va les libérer au fur et à mesure? Est-ce que certains ne sont pas encore en circulation sous le manteau? Ça, on n'en sait rien.
Oui, vous vouliez intervenir là?
Voilà, bah pour revenir à ce que disait mon collègue, au prix des produits phytosanitaires, l'agriculteur ne peut même pas se permettre de mettre plus que la dose indiquée. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'exploitations, il y a quand même un conseiller agricole qui passe l'exploitation pour conseiller les doses. Et donc, je pense que la dose est beaucoup moins forte du côté de l'agriculture que du côté des particuliers qui, eux, par contre, ne savent pas vraiment raisonner à la surface.
Donc, l'aspect économique est important pour l'agriculteur, donc c'est un frein à l'usage immodéré des produits phytosanitaires. Voilà.
Alors, je reviens juste sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, si on s'amuse à calculer la dose utilisée par unité de surface entre un agriculteur et un particulier, on serait effrayé par ce qu'utilise le particulier. Qui, lui, effectivement, dans le pulvé à dos, n'hésite pas à en mettre une petite touche en plus, parce qu'au cas où.
Oui, sauf qu'il a moins de surface
aussi. Il a moins de surface, mais si vous additionnez toutes les surfaces qui sont cultivées, chacun de son petit jardin, c'est loin d'être négligeable. Et là, je ne sais pas comment vous procédez, mais on ne va pas trop s'occuper de savoir s'il y a un ruisseau qui est à 50 mètres ou pas, et que peut-être que le produit que j'utilise, je ne dois pas les pendre à moins de 150 mètres. Est-ce qu'il y a du vent ou pas de vent? De toute façon, c'est le samedi. Puis...
Les particuliers doivent recevoir une information dans les magasins, dans les jardineries, lorsqu'ils vont acheter ce type de produit. Mais par contre, ça ne se fait pas.
Alors, déjà, ça ne se fait pas, parce que les vendeurs ne sont pas forcément formés à ça. Et s'ils sont formés à ça, ils vont être formés par les firmes de produits phyto. Donc, ils ne vont pas les restreindre à vendre les produits phyto. Malheureusement.
Autre genre de question. J'ai vu une émission où on montrait dans un champ, je ne sais plus si c'était du maïs, mais je crois plutôt que c'est de la vigne, où il y avait des haut-parleurs qui diffusaient de la musique classique au champ. Et la personne prétendait. Canular, utopie ou réalité?
Alors ça, c'est une autre conférence. Après, on trouve de tout. Alors, je pourrais vous donner le nom d'un collègue qui travaille à Paris d'Hydro, qui est chercheur à Paris d'Hydro, et qui travaille avec un Italien sur ces aspects-là. Justement, vous avez entendu parler de ces histoires de finalement, voilà, on va diffuser de la musique, alors pas du hard rock, hein, donc en principe de la musique classique, ça marche bien. Et ils se sont dit, mais s'il n'y a pas un fond de vrai là derrière? Et en fait, ils se sont aperçus que quand vous plantez une plante dans un milieu qui est relativement sec, et de l'autre côté, vous mettez une membrane imperméable, et de l'autre côté, vous faites couler de l'eau. Donc, le milieu dans lequel est votre plante est humidifié de manière totalement homogène. Et en fait, ce que vont être capables de percevoir les racines, c'est non pas l'eau qui coule à côté, on va sentir l'eau, mais quand l'eau va couler, il va y avoir des ultrasons qui sont émis. Et si vous reproduisez ces ultrasons, par un système totalement électronique, les racines vont migrer de ce côté-là. Voilà. Vous inversez l'autre côté, les racines repartent de l'autre côté. Donc ça veut dire que ces racines sont capables de percevoir des ondes sonores.
C'est pas un canular total.
Après, il faut démontrer qu'il y a un réel effet, mais moi je me dis pourquoi pas.
Est-ce qu'il y a eu des dosages de fait dans les bouteilles de vin pour retrouver les pesticides et autres produits phytosanitaires?
Oui.
Et alors?
Bon, on en retrouve sans problème. Et même dans des vins qui sont en agriculture biologique. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude qui est sortie il y a quelques jours sur les carottes bio. Ils avaient pris des carottes bio dans X filières. Et en fait, je crois que sur tous les lots, il y avait 50 ou 60% des lots de carottes bio qui contenaient des produits de synthèse. Tout simplement pour que... Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais pour qu'une une surface agricole passe en agriculture biologique, donc le label, il faut 3 ans de conversion. C'est-à-dire, pendant 3 ans, il faut que l'agriculteur applique les principes d'agriculture biologique, et c'est seulement au bout de 3 ans qu'il va pouvoir appliquer le logo. Sauf qu'avant, on ne sait pas l'historique de la parcelle. Donc, la parcelle a pu être contaminée par de l'arsenic, par tout ce que vous voulez à haute dose. Si pendant 3 ans, vous appliquez les principes du bio, vous allez pouvoir vendre votre produit comme un produit bio. Sauf que tous les polluants qui sont accumulés pendant des années et des années, ils vont toujours être là, et ils seront absorbés par les cultures. Et vous allez retrouver dedans. Donc le label bio, c'est juste par rapport aux conditions de culture de l'année en cours, et pas par rapport à l'historique de la parcelle.
Vous croyez qu'il y a un prélèvement sur le sol?
Ah non. Non, il peut y en avoir, si on a affaire à un agriculteur consciencieux qui veut savoir si effectivement, dans le sol, dans la parcelle qu'il va vouloir exploiter en bio, que c'est une parcelle a priori, on va dire, saine, mais il n'y a pas de contrôle obligatoire par rapport au sol. Oui.
Là, le contrôleur, donc l'écocert, l'organisme certificateur, peut prélever la terre, justement voir s'il y a des résidus ou
non. Ça, il va le faire l'année, la première année de. Voilà.
Je vous parle d'expérience parce que, du coup, enfin, mes parents, ils pratiquent la culture biologique. Et par rapport au contrôle, donc là aussi, il y a facture à la pluie. Je dois garder tous les sacs, tous les bidons qui ont pu être utilisés. Donc, au niveau des quantités, c'est bien. Et après, au niveau des résidus concernant le cuivre, c'est particulièrement le problème des pratiques faites par mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui était une personne qui n'était pas sensibilisée au problème de ces produits.
Surtout qu'il y a X années, on n'était pas 6 kg de cuivre par hectare et par an, on était à beaucoup plus, en général. Voilà. Et le cuivre, ça, une fois qu'il est accumulé sur le sol, de toute façon, il ne va pas partir, quoi. Donc il y a un historique de la parcelle qu'on peut traîner pendant des dizaines d'années.
J'ai une autre question, alors qui est beaucoup plus terre à terre, c'est pas directement l'agriculture, je ne sais pas si tout le monde est bien informé de ça, c'est que depuis le 1er janvier 2017, l'État interdit totalement l'utilisation des produits phytosanitaires dans, par les services publics. C'est-à-dire que c'est interdit maintenant de mettre du désherbant dans tous les lieux publics. Mettre des désherbants par les gens des services publics, qu'il soit bien clair. Donc ça fait que 2017, bon, on va voir. Moi, ça me pose question parce que je me demande comment on va s'en sortir parce que d'ici quelques années, il y aura. Des mauvaises herbes un petit peu partout. Et l'huile de coude, oui, mais l'huile de coude, ça coûte très cher.
C'est des... Mais ça crée des emplois.
Oui, mais qu'on ne sait pas payer. Que l'on ne sait pas payer. Puisque maintenant, tous les budgets des communes sont en train d'être revus à la baisse.
Y compris des plantes allergisantes.
Y compris des plantes allergisantes. Donc, on fera une conférence là-dessus quand les mauvaises herbes sont bien trempées. Donc, on va. Oui, encore une dernière. Et puis...
Oui. Ce qui nous intéresse, c'est le produit fini.
Comment ?
Ce qui nous intéresse, c'est le produit fini. D'accord. Mais il y a une proportionnalité entre les doses utilisées et les produits absorbés par la plante. Ça dépend des plantes, ça dépend.
Ça dépend surtout des produits. Par exemple, pour faire simple, dans les produits, dans les pesticides, vous allez avoir deux grandes classes. Il va y avoir les produits dits de contact, donc qui vont rester à la surface du végétal et qui vont pouvoir être, pour certains, simplement être lessivés par l'eau, par la pluie. Donc, par exemple, le cuivre qu'on utilise, ce qui est couramment admis, c'est que dès lors qu'il tombe 20 mm d'eau, vous allez totalement lessiver le cuivre qui est retenu sur votre couvert végétal. Alors le cuivre, non, très peu. Certains vont pouvoir s'absorber légèrement, mais très très peu. À l'inverse, d'autres produits qui sont des produits dits systémiques, c'est-à-dire qui vont pénétrer à l'intérieur de la plante et qui ensuite vont se répandre dans l'ensemble de la plante. Donc ça, c'est l'exemple typique de ces produits-là, c'est par exemple le glyphosate qui va pénétrer, qui après va se dispatcher dans toute la plante et qui va faire crever toutes les cellules de la plante. Donc ça va dépendre déjà du type, du mode d'action du composé. Après, vous avez des composés qui vont avoir... Une stabilité chimique extraordinaire. Il y a eu, il y a encore, on va dire, un scandale, notamment dans les Antilles, par rapport à la protection du bananier, qu'un composé qui s'appelle le chlordécone. Alors, le chlordécone, c'est utilisé pendant des dizaines d'années, et d'un point de vue chimique, c'est un bunker, c'est quelque chose qui n'est absolument pas dégradable. Donc, en fait, ce composé-là, une fois qu'il est absorbé par la plante, il est là en permanence et il ne peut pas être dégradé par la plante. Donc, c'est difficile de répondre à la question parce que c'est à chaque fois un cas particulier. Ça va dépendre de la molécule en question. Donc, ça va depuis certains qu'on va quasiment pas retrouver à d'autres que l'on va retrouver à des doses extrêmement, extrêmement importantes.
Donc, merci beaucoup, monsieur.
De rien, merci.
Avec un sujet que on vous dévoilera.
D'accord.
En temps utile. Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.
Biodiversité.
Oula, biodiversité, on a fait des spécialistes là.
Non.
Merci.
Non, mais vous pouvez nous indiquer.
Au revoir.
Non, ou bien vous réfléchissez à d'autres sujets.
Bonsoir. Sur biodiversité, c'est vrai que c'est vraiment des sujets qui sont vraiment
appuyés sur le bouton
aussi. Mais voilà, il faut vraiment des spécialistes pour. Parce que c'est,